Ah ben là, on parle de, bien sûr, Aime l'été. On continue notre... on continue avec Christophe Auger, qui est pharmacien. Et puis, parlant d'été, ben, on parle de moustiques. Bonjour.
Bonjour.
Alors là, évidemment, on parle de moustiques et des moyens, finalement, de se protéger des moustiques, mais aussi des piqûres et tout. Et puis, on pense, bien sûr, à la maladie de Lyme, là, qui est vraiment très, très importante, très répandue, là, autour. Ben, c'est pas la maladie de Lyme qui est répandue, mais les tiques sont très répandues.
Oui.
Ouais. Alors, c'est ça. Donc, dans la plupart de nos régions, là, même, on disait toujours que c'était soit dans le Maine, aux États-Unis, parfois. Mais là, maintenant, c'est rendu chez nous, dans les cantons de l'Est, mais partout. Là, il peut y en avoir dans ma cour, même.
Oui, absolument. En fait, oui, jusqu'à, je vous dirais, il y a une dizaine d'années, on considérait que c'était uniquement aux États-Unis. Mais depuis 5-6 ans, c'est bien clair que la tique est implantée au Québec et assez largement dans toutes les régions du sud du Québec, notamment dans ma région en Estrie.
C'est ça, particulièrement, oui, effectivement. Oui, il y a des gens qui disent qu'ils en voient pratiquement tous les jours, là. Et puis, bien sûr, qu'il y a les animaux de compagnie aussi qui en transportent sur eux, qui communiquent les tiques, en fait, aux humains, forcément.
Ben, la communication la tique, généralement, quand elle a trouvé un hôte pour manger, elle va rester sur celui qu'elle a trouvé. Elle va pas voyager.
La tique est paresseuse?
Ben, elle est pas forcément paresseuse, mais elle est pas très sélective. C'est-à-dire
D'accord.
que si elle a trouvé quelqu'un pour manger, elle va rester dessus. Puis, par rapport à la protection, là, il faut bien comprendre que, par contre, elle va aller se placer au bon endroit sur l'individu qu'elle a trouvé. Donc, même si c'est généralement au niveau des jambes qu'on va rentrer en contact avec une plante qui va transporter une tique. La tique, elle a des pattes. Elle saute pas, elle vole pas, mais elle marche bien. Donc, elle va aller se placer dans d'autres endroits. Elle aime beaucoup être au niveau derrière les oreilles, par exemple, ou dans la nuque. Donc, c'est des endroits privilégiés pour elle.
Mais comme prévention, ça devient difficile. Quand on nous dit, ben, mettez des pantalons longs, des chaussettes, mais là, quand on parle derrière l'oreille, dans le cou, on fait quoi pour prévenir?
Oui, ben en fait, l'essentiel c'est de pas être en contact. Mais avant, on parlait beaucoup de attention aux autres herbes si vous allez en forêt. Mm-hmm. Mais on s'est aperçu que, comme vous l'avez dit un petit peu plus tôt, maintenant on en trouve aussi dans notre jardin. Hein, faut pas. Donc la seule prévention qu'on, ben il y en a deux préventions. La première, c'est d'utiliser des produits comme contre les moustiques. C'est les mêmes produits du DIT ou de l'icaridine. Mm-hmm. On sait que ça fonctionne, mais comme pour les moustiques, c'est pas du 100%. Et puis ensuite, après avoir passé du temps en extérieur, ben c'est de se vérifier. Donc, vérifier qu'on n'a pas une petite tique d'accrocher quelque part.
Ben, c'est ça. Alors, évidemment, bon, puis il y a une façon aussi, quand vous réalisez qu'il y a une tique sur vous, ben, il y a une façon de l'enlever, là, parce qu'au fond, elle est en partie dans votre peau, et puis là, elle se régale, mais si vous l'enlevez, ben, c'est pas, elle peut quand même vous communiquer la maladie.
Oui, il faut faire attention, notamment à ce qu'on voit sur Internet. Hein. Faut toujours avoir un œil un petit peu alerte pour ces choses-là. Il y a beaucoup de choses qui circulent, mais il n'y a pas, c'est pas des bonnes façons. Là. La brûler, lui mettre des huiles essentielles, on ne fait pas ça. Du jus de citron, n'importe quoi, parce que ça stresse l'animal. Puis là, on a plus de risques qu'elle régurgite, donc qu'elle transmette la maladie. Donc la bonne façon, c'est avec une, ben on en a deux surtout, hein, d'utiliser une pince en bout fin et d'attraper la petite partie dure qui est contre la peau, qui sont finalement les pièces buccales de l'animal, et puis de tirer dessus fermement pour la retirer. Ou alors on peut utiliser ce qui est beaucoup plus facile, ce qu'on appelle un tire-tique. Donc c'est comme un petit crochet qu'on passe en dessous de l'animal, on le tourne et puis ça part tout seul. C'est beaucoup plus facile.
C'est ça. On a ça en pharmacie. De toute façon, la bonne chose à faire, c'est d'aller voir le pharmacien, parce que il y a des gens qui m'ont dit, ah ben j'avais une tique et puis je suis allée à la pharmacie. Le pharmacien m'a indiqué qu'est-ce que je devais prendre, qu'est-ce que je devais faire exactement. Sur place, c'est encore plus facile.
Absolument. J'en retire régulièrement des gens. Là, ils viennent, puis ceux qui... On peut expliquer aux gens comment utiliser le crochet, mais moi, j'en retire quand même assez régulièrement sur les gens aussi. Surtout que j'ai plus l'habitude qu'eux, donc oui. c'est plus facile de leur montrer. Et puis, en plus, il y a ce qu'on appelle la prophylaxie post-exposition. Donc ça, c'est un antibiotique que vos pharmaciens peuvent vous donner si vous remplissez les critères qui correspondent à ça. C'est-à-dire, si vous avez eu cette tique dans une région qui est plus à risque et si elle est restée attachée pour plus de 24 heures. Parce qu'on considère que si elle est restée attachée moins de 24 heures, ben, le risque est à peu près nul. Mais plus le temps augmente, ça c'est lié au mode d'alimentation de la tique. Là. Elle peut rester accrochée pendant 6-7 jours avant de tomber. Là, elle va grossir, puis elle va commencer à avoir un cycle qui fait que là, elle peut transmettre la maladie. Ouais. Donc, on augmente le risque, mais là on va donner un antibiotique. C'est pas la solution à tout, hein, l'antibiotique, mais ça permet de réduire les risques d'avoir à terme une maladie de Lyme.
C'est ça. Là, évidemment, c'est sûr que aussi vous êtes sollicité, j'imagine, pour tout ce qui touche le soleil, les crèmes, bien entendu, les coups de chaleur aussi. C'est sûr que là, on a de grosses chaleurs en ce moment. Ouais. Alors, c'est vraiment le pharmacien peut répondre à toutes nos questions. C'est important.
Oui, ben la partie du coup de chaleur où le pharmacien est vraiment impliqué, c'est qu'un coup de chaleur, il y a des personnes qui sont plus à risque que d'autres et des personnes qui vont prendre certains médicaments qui vont augmenter le risque de coup de chaleur. Donc, qu'est-ce que c'est finalement le coup de chaleur? C'est que on est des mammifères, on est à sang chaud et notre température est régulée et dès que on augmente, ben ça occasionne des problèmes. On a plusieurs mécanismes pour réguler cette chaleur-là, notamment la sueur. Et puis, à un moment, ben, on n'est plus capable. Et puis là, on va commencer à avoir des symptômes, des étourdissements, parfois des nausées, des vomissements. Là, ça, c'est vraiment le coup de chaleur qui devient important. Puis il y a beaucoup de gens qui meurent chaque année de ça. Donc, c'est vraiment un problème qui est,
ouais,
qui est
tout
sérieux.
À fait. Savez-vous, ben, je vous ai appelé tantôt Christophe, mais c'est Christopher Auger.
C'est Christophe.
Ah, c'est Christophe. OK, d'accord. Oui, oui. C'est ma collègue qui pensait que j'avais fait une erreur. Chose certaine, écoutez, on a peut-être l'intention de vous réinviter un peu plus tard si jamais vous êtes... Je sais que vous êtes très occupé, mais enfin, on pourrait parler d'autres choses. Alors, l'émission est déjà terminée. Je suis obligée de vous dire au revoir. Merci d'avoir été là et bonjour à tout le monde. On se retrouve demain.